Bon après-midi et bienvenue aux nouvelles sur le poste national avec Maureen Wanzi-Wilaï et Larissa Ngono. Les titres de l'actualité.
Stakeholders in the electoral process and ELECAM officials have examined the progress made in promoting citizen engagement and voter education. These at the National Consultation Platform in Yaoundé. Focus of the day examines moves being made towards ensuring that the political playground is leveled.
Processus électoral, discussion ouverte entre ELECAM et les autres parties prenantes. La plateforme nationale de concertation permanente réunit depuis ce matin à Yaoundé ses acteurs. C'est dans la perspective des scrutins majeurs en approche dont il faut garantir qualité et crédibilité. Dans le 17-18, le focus du jour.
Two historical documents have been consulted and clarifications concerning the demarcation and delimitation of the Cameroon-Equato-Guinean border. The representatives of the two countries are scrutinizing the Franco-German Protocol of 1885 and the Franco-Spanish Convention signed in 1900.
Le Centre international de référence Chantal Biya dans la mouvance du mois camerounais de lutte contre le sida. Déjà en œuvre, la veille thérapeutique et le dépistage, et plus encore en laboratoire, la mise à disposition prochaine d'une molécule à longue durée d'action. Détails dans ce journal.
And in sports, Cameroon's senior women's handball team is in the Democratic Republic of Congo for the 26th African Cup. The Lionesses play their first game tomorrow against Guinea. Those were our top stories.
The 5 to 6 p.m. is 16 minutes of news and information about major happenings in the nation. Focus of the day. Sports World News. In-depth report. Investigative news report. The interview. The 5 to 6 p.m. guest. And much more on the radio network of the CRTV.
Thanks for being with us on the 5 to 6 p.m. It's always our pleasure to have you all connected to the CRTV radio network. Prime Minister, head of government, says Cameroon is committed to upholding the highest standards in the fight against money laundering and the financing of terrorism. Joseph Diongute made the statement today during an audience he accorded to the permanent secretary of the Action Group Against Money Laundering in Central Africa, Congolese-born André Kanga. The two officials discussed on the efforts Cameroon is making to attain compliance with the standards of the International Financial Action Task Force, FATF. Star Building correspondent Christian Chatham tells us more.
Since June 2023, Cameroon has been in the grey list of the Financial Action Task Force, FATF, the global standard setter against money laundering. The FATF grey list identifies countries with strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorism financing systems. A rather bad place to be because it has significant consequences in a country's economy. It causes reputational damage, which can restrict cross-border transactions, make the obtention of loans difficult, and cut down direct foreign investments. The visit of the permanent secretary of the Action Group Against Money Laundering in Central Africa to the Star Building was therefore a high-stake visit. André Kanga and Joseph Diongute talked about the efforts Cameroon is making and must make to obtain a better FATF rating. André Kanga, permanent secretary of the Action Group Against Money Laundering in Central Africa. We want Cameroon to be removed from the FATF's grey list as quickly as possible. That is why we came to see the Prime Minister, head of government. There is need for everyone to put their heads together in order to ensure that things go well for Cameroon. The Prime Minister, head of government, Joseph Diongute, reassured the head of the Central African Regional Money Laundering Body that the government of Cameroon is making the necessary efforts to attain full compliance with FATF standards. A report of the country's progress will be presented during the FATF's International Cooperation Review Group, which takes place next January in Namibia. Christian Cheatam, Sierra TV, The Star Building.
Et nous restons à la primature où l'on a évoqué, vous l'avez suivi, des questions de lutte contre le blanchiment d'argent ce mardi avec une offre d'assistance technique au gouvernement camerounais. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a reçu André Kanga, secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en visite de travail au Cameroun. Le compte rendu d'audience avec Laurentine Bokono.
Dans le viseur, la réunion du groupe d'examen de la coopération internationale du GAFI, prévue du 6 au 11 janvier 2025 à Windhoek, en Namibie. Au cours de cette réunion, le Cameroun devra présenter son troisième rapport de suivi des progrès dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. S'y ajoute l'effort de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Il s'agit d'un impératif à valider deux fois par an. Objectif visé, permettre au Cameroun à terme de sortir du régime de surveillance renforcée. C'est la motivation majeure de la mission du Kabak à Yaoundé sous la conduite de son secrétaire permanent, André Kanga.
Vous savez que le Cameroun est sur le processus ICRG que tout le monde appelle communément la liste grise. Nous sommes venus plaider la cause que nous voulons que le Cameroun sorte le plus rapidement possible. Il nous faut conjuguer, nous tous, les efforts aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer le Premier ministre qui est le chef du gouvernement pour mobiliser tous les acteurs.
La liste grise du GABAC, c'est celle qui regroupe tous les pays qui présentent certaines fragilités et insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent. D'où la nécessité d'un renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le visiteur du Premier ministre chef du gouvernement dit avoir été rassuré sur l'engagement des pouvoirs publics camerounais à relever ce défi.
Très, très positif. Et il nous a rassuré de l'engagement de son gouvernement. Et nous pouvons repartir très sereins. Et comme nous sommes aux côtés du Cameroun, tous les acteurs, nous allons aussi défendre ce rapport pour que les choses se passent bien.
Faut-il le rappeler, le comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été créé par le président de la République en octobre 2023. Il est désormais fonctionnel. D'autres actions menées en appui de cette mobilisation sont des éléments supplémentaires qui témoignent de la détermination du Cameroun à être de nouveau en phase avec les instances internationales du secteur. Immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV.
And as you heard in one of our top stories, historical and colonial documents have been scrutinized at the ad hoc Cameroon Equatorial Guinea Border Commission holding in Equito, Guinean city of La Paz. Both countries have presented documents justifying their arguments and preoccupations, while experts have saluted the spirit of mutual respect and consideration governing proceedings. Our special envoy, Albert Njembande, reports from La Paz.
Day one of the proceedings chaired at the ministerial level has given way to day two, holding amongst the group of experts led by His Excellency Jean-Claude Désiré Mengele Owono, Cameroon's ambassador to Equatorial Guinea, and the Equato-Guinean Minister of Mines and Hydrocarbons, Domingo Mbae Sono. The Franco-German Protocol on West African Possessions, signed on December 24, 1885, and the Franco-Spanish Convention on Demarcation and Delimitation, signed on June 27, 1900, has captured the attention in the proceedings. The two historical documents carry important details expected to give clarity on the land borderline, which is estimated between 185 and 196 kilometers. Interesting to note is that the two countries operate on two different concepts of the border. If maritime border issues in Cameroon are handled by the Ministry of External Relations and land issues within the competence of the Ministry of Territorial Administration, in Equatorial Guinea, all border issues are within the competence of the Ministry of Interior. The two parties are presenting arguments to their claims. Minister Paul Atanganji, acting at the behest of President Paul Biya, has saluted the spirit in which the exchanges are going on, particularly the goodwill of the Equato-Guinean delegation, and remains optimistic that the two parties will chart a way forward towards an effective frontier demarcation and delimitation exercise far away from the 1984 fiasco in Mbam, where the two parties failed to agree. Albert Njembonde, Yannick Ayagma, on special assignment, La Paz.
New therapies and strategies to curb HIV infections with focus on long-acting drugs have been presented to the members of the Cameroon section of the International Francophone Press Union. The media practitioners led by the president, Dr. Evelyn Menge-Akung, met with the director general of the Chantal Biya Reference Research Center, Professor Alexi Njolo, today, in line with activities organized by the CIP ahead of World AIDS Day, observed on December 1. Ayimbile reports.
From disseminating the results of a peer-reviewed research paper to the findings of studies carried out in laboratories, the media remains a powerful tool that presents unique opportunities for researchers wanting to engage with the people, a role carried out satisfactorily by members of the Cameroon section of the International Francophone Press Union, UPF, received by Professor Alexis Njolo and his cream of researchers to exchange on current scientific advances made by the reference research center.
There are many good news. One of them is that the prevalence rate has went down around 2%. That is something very important to take note of. And the therapeutic solutions are working and that they have gone even a step forward and they are thinking now of an long-lasting treatment.
Priceless direct contact with researchers which left the media practitioners led by the president, Dr. Evelyn Menge-Akung, empowered.
They have also asked us to accompany them to sensitize people living with this disease that they should not stop their treatment because sometimes there are people taking their treatment, they have to take it daily and sometimes they forget. When they do so, it becomes very complicated because there are resistances and the drugs are not effective again.
And for Professor Alexis Njolo and his crack team of researchers, among them Dr. Hubert Nanfak, unhindered access to knowledge generated through research remains critical for the well-being of Cameroonians.
It's this long-acting antiretroviral therapy that's going to be like a game changer because moving from taking 3 pills a day, we went to 1 pill a day, but now we're improving to 1 shot every 6 months.
Also engaged for the past days in voluntary, anonymous and free HIV testing, the CIRCB has been drawing young people to the research center.
I am Ombede Michel, and I came here to take the HIV screening test so that I will know my HIV status. This is very important because if the results are positive, treatment will be easier and faster for the doctor.
Screening, media exchanges, and more, which should help the CIRCB play its own part in ensuring that Cameroon attains zero new infections, zero AIDS-related deaths, and zero discrimination by 2030.
25 security officers from 6 Central African countries have been equipped with advanced digital forensic techniques to investigate cyber crimes in the subdivision. This is at a training session organized by the Committee of Police Chiefs of Central Africa, CCPAC, opened in Yaoundé today by the Permanent Secretary of the Committee, Ezayi Ovono Eyimezui. Details with Rita Yoisembam.
The participants, drawn from the Central African Republic, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Chad, and Cameroon, are learning how to extract, preserve, and analyze digital evidence from various devices, including smartphones and computers, and then develop detailed forensic reports for judicial use. The training adopts a practical approach to ensure hands-on mastery of advanced forensic tools, as explained by an expert in cybercriminality, Ismail Angom.
This training is focused only in cybercrime, how to track someone using technique science, call it digital forensic. Here we use several software like autopsy. Autopsy is just software that is used to extract data and to analyze data in computer science.
To the Permanent Secretary of the CCPAC, Ezayi Ovono Eyimezui, stresses the need for specialized investigative units equipped with the latest digital tools and techniques.
This session is for the police officers to make the research in order to fight the cybercrime.
This initiative is part of a broader effort to enhance regional security by addressing the evolving challenges of cybercrime scientifically and comprehensively, ensuring both virtual and physical safety across Central Africa.
The chairperson of the Electoral Board of Elections Cameroon has commended the significant progress achieved since the establishment of the national consultation platform between ELECAM and its stakeholders. Speaking in Yaoundé this morning at the opening of the platform's second edition, Dr. Eno Abrams Egbe highlighted the increased voter registration and the successful outreach efforts targeting marginalized groups. Here now is an excerpt of the speech of the board chair of Elections Cameroon, Dr. Eno Abrams Egbe, highlighting the importance of the platform in fostering common understanding.
The inaugural edition of this platform in 2023 was a resounding success, as reflected in your appreciation and feedback. It provided us the opportunity to identify key issues and challenges laying the foundation for today's deliberation. Additionally, the decentralized approach to the regional platforms effectively tackles specific challenges in various areas, including those experiencing insecurity. This strategy did not only facilitate broader participation in democratic processes, but also fostered a more inclusive and targeted engagement. Building on this, the platform's impact is clearly reflected in the significant increase in voter registration this year. This achievement, made possible by your active involvement, underscores the platform's crucial role in instilling confidence in the electoral process and promoting citizen engagement.
You are listening to the 5 to 6 p.m. on the national station of the CRTV. We go over to the Senate, where four members of government have taken turns today before the Foreign Affairs Committee of the Senate to defend bills that fall within their area of competence. They are the Ministers of Arts and Culture, External Relations, Transport, and the Interim Minister of Mines, Industries and Technological Development. Details with Amin Keng Edward.
The first member of government to mount the rostrum before members of the Foreign Affairs Committee of the Senate was the Minister of Arts and Culture, Bidun Kwad, who presented solid argument on the bill to ratify the Beijing Treaty on Audiovisual Performances, which, according to the minister, will ameliorate the working condition of artists in Cameroon. Then came the Minister of External Relations, Lejeune Mbelembelen, to advocate for Cameroon's accession to the Convention to Combat International Terrorism.
Cameroon was already working very hard globally, participating in various conferences in terms of the fight against terrorism. It is going to be more coercive and bringing more sense to the fight against terrorism.
He was closely followed by the Minister of Transport, Jean-Ernest Masinangale Bibe, defending the bill on the establishment of the International Organization for Marine Aids to Navigation.
The document that will be presented here today will improve the importance of security in our maritime sector, protect the environment, and develop cost infrastructure.
The bill on the Lisbon Agreement on appellations of origin and geographical indications was defended by the Interim Minister of Mines, Industries and Technological Development, Phou Callistus Gentry, who detailed the potentials of the bill.
This adhesion to the Lisbon Arrangement will allow us to become worldwide. So you can imagine that just limited to 17 countries, we are selling cocoa from 1,000 to 5,000. We expect exponential increase in the value of these three products once they get accepted worldwide.
All the cabinet ministers left the Senate pretty much confident that the different bills will be adopted in the upper house of parliament.
And the 5 to 6 p.m. continues with you, Larissa, and we stay at the Senate, where four members of government have defended bills within their competence.
Examen approfondi en effet de quatre projets de loi au Sénat, des projets de loi relatifs à des accords de coopération internationale. Il y a tout juste quelques heures, la Commission des affaires étrangères a vu le passage du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Angale Bibéhé. Il a défendu le texte de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime. Je vous propose de l'écouter.
Le premier avantage, c'est que ce document pour lequel nous sollicitons la ratification va permettre d'améliorer la sécurité sur nos eaux. Il permettra ensuite de protéger l'écosystème en mettant en place un programme de développement. Il va ensuite nous permettre de protéger l'environnement et enfin de développer les infrastructures côtières. Ce document, auquel nous sommes venus solliciter également la ratification aujourd'hui, va permettre à notre pays de bénéficier des avantages qui sont habituellement réservés aux membres fondateurs d'une organisation. Et enfin, la ratification de ce texte par notre pays permettra à celui-ci de se positionner en termes d'attractivité et de compétitivité de cet ordre.
Toutes nos excuses pour la qualité approximative de cet élément sonore. À l'Assemblée nationale, il y avait séance plénière à l'hémicycle du Palais des Congrès, avec à l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le chef de chambre, le très honorable Kavayégué Djibril, la discussion générale et l'adoption de deux projets de loi. Il s'agit du texte de règlement pour l'exercice 2023 et du projet de loi portant protection des données à caractère personnel, un document défendu par le ministre des Postes et Télécommunications. Et parmi les préoccupations ayant le plus retenu l'attention des élus, il y avait notamment la question de la disparition des crédits de communication et la mauvaise qualité du réseau. Et voici la réponse de Minette Liboum-Lilikeng.
Il y a un problème d'éducation des populations. Tout le monde utilise Internet, le téléphone, sans comprendre les enjeux et les mesures qu'il faut prendre. Je prends le cas du crédit de téléphone. Oui, il peut y avoir des abus et les opérateurs, depuis le mode avion, remboursent à ceux qui ont eu leur crédit consommé injustement. Il y a d'autres où vous faites des souscriptions parce que vous voulez payer moins cher. L'opérateur fait une souscription sur un délai de 4 heures. Et vous voulez dire qu'ils vont comprendre que j'étais à l'hôpital ou bien qu'il y a eu ceci ou cela. Non, ça ne marche pas. Et puis quand vous mettez le crédit avec un téléphone Android, il y a des cellules qui sont ouvertes et qui consomment votre crédit. Donc soit vous avez le téléphone simple, le choronko comme on appelle, le crédit du choronko ne finit pas. Parce que si vous appelez, le crédit est consommé en ce moment-là. Si vous ne le faites pas, il ne sera pas consommé. Et les opérateurs ont tous ouvert un centre de réclame. Prenez le temps de vous plaindre auprès d'eux.
Voilà donc pour ce qui est de ces éclairages de Minette Liboum-Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications. 17h24, vous écoutez le journal sur le poste national. Nous vous le disions en titre, Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral accordent leur violent pour des élections crédibles et apaisées en 2025 et 2026 au Cameroun. La deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre ces différentes parties est en cours depuis ce matin à Yaoundé. Leaders politiques et acteurs de la société civile qui participent aux assises souhaitent que des résolutions allant dans le sens de l'optimisation du processus électoral soient adoptées et appliquées. Écoutons à ce propos Garga Amanadji. Il est le président national de l'Alliance pour la démocratie et le développement et Abakar Aramat, acteur de la société civile.
Excellente initiative parce qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Et les acteurs d'un côté comme ceux de l'autre, en se rencontrant, finissent par modeler leur vie commune. Et si on le dit, c'est parce qu'on sait que d'un côté comme de l'autre, il y a des tricheries et que les tricheries créent des frustrations. Et les frustrations amènent des vulnérabilités et même des frustrations et des manifestations. Donc pour prévenir cela, on dit venez vous rassembler. Si c'est honnête, c'est une très bonne chose.
Je souhaite que les gens discutent de manière assez honnête, de manière assez franche. Parce que les élus ne nous représentent plus. Nous croyons les avoir votés avec nos convictions. Mais eux, ils savent pourquoi ils ont été plutôt élus. Je souhaite donc que cette plateforme permette que les discussions franches qui devraient se développer au cours de cette rencontre-là permettent que désormais les choses se fassent comme elles devraient se faire avec le moins de critiques possible.
Des propos recueillis par Ibrahim Mohamed Abassi. Et la plateforme nationale de concertation permanente qui rassemble autour d'Elections Cameroun d'autres acteurs du processus électoral est un environnement d'échange franc dont l'enjeu est l'inclusion de tous les groupes sociaux dans la conduite des scrutins. Coup de projecteur sur ce cadre d'échange à suivre dans la page magazine de cette session d'information. Focus du jour. Le Centre international de référence Chantal Biya ouvre ses portes à la section camerounaise de l'Union internationale de la presse francophone. En ce mois camerounais du SIDA, le CIRCB a reçu une délégation de l'UPF conduite par le docteur Evelyne Meng-Akung. Et parmi les informations de première main glanées sur place, la mise à disposition prochaine d'une molécule à longue durée d'action pour les personnes vivant avec le VIH. Joseph Clément Oumba.
Relais fiable d'une communication pertinente du public sur le VIH, la section camerounaise de l'UPF, l'Union internationale de la presse francophone, ne pouvait avoir meilleure source sur les avancées liées à la recherche sur le VIH que le Centre international de référence Chantal Biya. Ces 8 laboratoires font autorité en matière de prévention. Dans sa double posture de directeur général du CIRCB et modérateur des échanges, professeur Alexis Ndiolo ne fait pas mystère des évolutions dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.
Les études sont menées pour mettre sur le marché des médicaments à longue durée d'action. Le CIRCB a commencé à réaliser des études préliminaires là-dessus. Le VIH-SIDA est en bonne évolution dans notre pays. Nous sommes partis d'une prévalence de 5,4% dans les années 2008 à pratiquement 2%, 2,7% au jour d'aujourd'hui.
Sans artifice et sans détour, et avec l'impertinence journalistique, la présidente de la section camerounaise de l'UPF, Dr Evelyne Meng-Akung, saisit bien les codes de cette communication en se félicitant des embellis enregistrés dans la séroprévalence du VIH.
La veille thérapeutique se poursuit. Des recherches ont été menées aujourd'hui. Il existe des traitements à longue durée, même s'ils sont encore chers pour le public camerounais, mais c'est une porte qui s'est ouverte.
Dans la mouvance du mois camerounais du SIDA, le CIRCB organise des causeries éducatives et surtout le dépistage volontaire et gratuit du VIH. Plusieurs jeunes y accourent.
Moi, c'est Ombede Michel. Je suis étudiant en immunologie médicale à l'Université Catholique. En fait, c'est pour connaître mon statut sérologique concernant le virus du VIH. Ça permet une prise en charge plus facile par le clinicien.
Avec ses 40 publications scientifiques annuelles, le CIRCB s'illustre comme une structure d'avant-garde dans la prévention du VIH au Cameroun.
Intéressons-nous à présent aux infrastructures routières pour relever que les travaux avancent à un rythme satisfaisant. 2/3 des projets sont réalisés avec un budget d'investissement public exécuté à hauteur de 99,5%. Le bilan émane de la 3e session annuelle du comité de suivi de l'exécution physique, financière et comptable des projets du ministère des Travaux publics. Rose Coco, reportage.
Le budget d'investissement public du ministère des Travaux publics, exécuté à 99,5% au 15 novembre 2024. Joseph Abonda, directeur des affaires générales.
Cette bonne consommation du budget d'investissement est un mec à l'actif d'une bonne évolution des travaux sur le terrain. Les paiements ne suivent pas toujours dans les délais réglementaires, ce qui réduit un peu la performance. Mais malgré cet environnement qui est assez contraignant, les projets routiers s'exécutent convenablement.
Le rapport de suivi de l'exécution physique, financière et comptable des projets présentés ce jour souligne par ailleurs que 2/3 des objectifs ont été atteints. Plusieurs travaux d'entretien routier sont en cours, notamment sur les axes Yaoundé-Douala et Deya-Kribing, sans oublier la route Olounou-Ovin dont les travaux ont été lancés la semaine dernière. Donald Takwete, directeur général des études techniques.
Dans l'entretien routier, nous avons des projets qui s'exécutent sur plusieurs années. On met de l'accent sur la poursuite des études de projets dont la phase antérieure a été exécutée en 2024. Avant qu'on puisse voir donc la possibilité offerte par le reliquat du budget pour ouvrir de nouveaux chantiers.
En présidant cette 3e session annuelle du comité, le ministre des Travaux publics a instruit la qualité dans le traitement des dossiers. Emmanuel Nganou-Djoumessi appelle les entreprises à se faire préqualifier. Les contrats de gré à gré seront supprimés. Ils ne seront accordés qu'en situation d'exception.
Et puisque l'heure du temps se prête au bilan de différents projets implémentés par le gouvernement et ses partenaires, nous avons également des nouvelles du projet régional de stabilisation du bassin du lac Tchad, fenêtre du Cameroun, au cœur de la 5e réunion du comité national de pilotage présidé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, mais ce mardi à Yaoundé. D'autres détails avec Daniel Sopo.
Les plans d'action conjoints de la Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad, fenêtre du Cameroun, ont permis de guérir les séquelles des violences liées à l'insécurité dans la région de l'extrême nord. Midiawa Bakari, gouverneur.
Les salles de cadres ont été reconstruites, les forages, les centres de santé, les postes de douane et de gendarmerie et de police qui ont même été équipés en ordinateurs, en véhicules. Les populations étaient accompagnées pour reprendre l'agriculture et l'élevage.
La troisième phase du projet débuté en novembre de cette année couvre 18 autres localités des départements du Mayo-Sava, Mayo-Chanaga et Logoni-Chari. L'ambition créée est maintenir la confiance dans le processus de paix. Cette phase s'achève en août 2028. Christophe Charabon, chef unité stabilisation au programme des Nations Unies pour le développement.
Il y a déjà 200 000 personnes qui ont pu revenir malgré les attaques. La relance économique, la relance de l'activité est là. Et il y a aussi des sentiments de sécurité. Les financements nous seront accordés au fur et à mesure. Et chaque fois, les donateurs, à ce jour, ont toujours été assez fidèles.
Mont Mandara, Serbouel, Wandala et Logon Birni, les populations de ces localités demandent à être formées pour mieux entretenir ces infrastructures qui reboostent la vie et les activités économiques dans cette partie du pays.
Dans l'actualité également, 25 stagiaires venus des 6 pays de la CEMAC participent depuis hier à un stage régional de formation sur la lutte contre la cybercriminalité. La session de formation a été lancée par le secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale, le lieutenant-colonel de police Esaïe Ovono Eyimozwi. Le reportage d'Arlette Amadou.
Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des travaux du 2e Conseil des chefs de comité de police d'Afrique centrale tenu les 8 et 9 septembre 2022. Ces travaux ont évalué la situation sécuritaire des 6 pays de la CEMAC. Les participants avaient alors noté le terrorisme, les trafics divers et bien sûr la cybercriminalité. La cybercriminalité a pris de l'ampleur avec comme infraction les usurpations d'identité, l'escroquerie et le vol en ligne entre autres. Pour faire face à cet état de choses, des formations du personnel de sécurité sont initiées. Ismaël Angom, expert en cybercriminalité.
Pour la police, la plupart du temps, les gens ont besoin toujours de formations supplémentaires et aussi d'outils sophistiqués. Les cybercriminels ont tendance à être en avance par rapport aux forces de l'ordre et de sécurité.
À la fin de la formation, les stagiaires seront capables d'investiguer les appareils numériques, exploiter les données dans les appareils électroniques, appliquer les techniques de collecte et rédiger un rapport. Les forces de sécurité sont appelées à renforcer leurs connaissances pour combattre toutes ces formes de criminalité, comme l'a réitéré le secrétaire permanent, le lieutenant-colonel de police, Esaïe Ovono Eyimozwi.
Et avec vous, Maureen, nous parlons d'agriculture et de développement rural. Le Cameroun adopte et met en œuvre une feuille de route nationale pour des systèmes alimentaires durables et résilients.
That's right, Larissa. Cameroon has adopted a national food system roadmap in line with the Sustainable Development Goals of the United Nations. A workshop to validate the report has rounded off in Yaoundé. The event was opened by the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, in the presence of the Secretary General in the Ministry of Agriculture and Rural Development, Grace Mbong, and officials of the World Food Programme. Here now is the Programme Policy Officer of the World Food Programme, Dr. José Luis Vivero, with an appraisal of strides taken by Cameroon this far. He spoke to Ngu Henry.
We have been supporting the government of Cameroon with other UN agencies like FAO, FIDA, GIZ, German Corporation, supporting the government of Cameroon to prepare this document and to elaborate the priorities for food systems for the years to come. And in this particular report, that it's a stock-taking report, how food systems have evolved in the last couple of years, 2023, 2024, I would like to highlight two key elements. The first one is the promotion of intersectorial coordination, or I would say multi-ministerial coordination, because food systems, they go beyond the mandate of only one ministry, the Ministry of Agriculture or the Ministry of Livestock. The food system is a holistic concept that also should get other ministries involved.
Cocoa producers and stakeholders in the value chain have embarked on curbing deforestation due to the creation of new farms. The partners of the cocoa production sector are in Yaoundé to adopt a common plan for sustainable cocoa farming that ties with expectations of climate change activities. Belinda Shaw tells us more.
In recent years,
The cocoa industry has undergone major changes at international level in response to the need to produce sustainable cocoa without deforestation. The European Union's regulation against deforestation confirms this development by making the objective of no deforestation a binding one. In such an international and national context, it is in Cameroon's interest to better define a buoyant and realistic positioning for its cocoa sector by promoting comparative advantages of agroforestry cocoa. To address the concern, the National Cocoa and Coffee Board conducted a large-scale national study to identify relevant variables and thresholds for qualifying Cameroonian agroforestry cocoa. Mark Ndoping is the general manager of the National Cocoa and Coffee Board.
In Cameroon, all the years, our cocoa has been grown under shade, but there's no international standard that defines cocoa grown under shade. We've been working with experts since 2023 to put in place a scientific referential that characterizes what is cocoa agroforestry.
The variables of the three main types of agroforestry cocoa identified, including highly diversified, intensive, and multipurpose types, will continue to be reviewed by local and international partners so that these align with the Rainforest Alliance's standards and contribute towards the production of an agroforestry cocoa reference framework in Cameroon.
The Committee for Monitoring Projects in the Ministry of Public Works says that the greater number of road projects have been completed for 2024. During the evaluation meeting in Yaoundé, chaired by Minister Nganou Njumesi, the officials explained that the remaining projects will be completed once the funding is available. Patience Wingo.
The inter-ministerial meeting focused on addressing challenges from the 2024 fiscal year to ensure the smooth execution of projects in 2025. Following presentations by officials from the Ministry of Public Works under the coordination of Minister Emmanuel Nganou Njumesi, it was noted that as of November 15, 2024, the budget had been utilized at 99.5%. This underspending was attributed to over-budgeting by certain contracting companies. The Director of General Affairs at the Ministry of Public Works, Joseph Abanda, comments actions taken so far to better manage the budget.
We made the commitment about 99% of the budget. We consume all our budget. And we also have many files which cannot be engaged at the end of the year. For 2025, we have many funds to continue to build our national roads.
In his closing remarks, Minister Emmanuel Nganou Njumesi highlighted that some projects funded by the public investment budget would be extended into 2025. He, however, emphasized that henceforth, projects scheduled within a given fiscal year must be completed before new projects are initiated. This, he stressed, would help prevent the non-completion of road projects and ensure better project delivery.
MTN Cameroon is celebrating this end of year by making buses and supporting entrepreneurs. The campaign to mark the festive season, dubbed MTN 237 Bus, has been launched in Douala with the goal to develop and accompany subscribers in building their businesses. Among the prizes to be won are 237 vehicles of different types, which the CEO, Witwa Ngambi, says will go a long way to helping winners in their economic activities. Roslyn Fossa attended that launch of the MTN End of Year campaign and put together this report.
When the leading telecommunication company in Cameroon, MTN, harbors the quality of Father Christmas, it indicates that the end of year will be a memorable one for subscribers. For the third time, MTN Cameroon has decided to celebrate the festive season, but this time around by making bosses and entrepreneurs thanks to the MTN 237 Boss campaign. Riyad Mizi is the marketing director at MTN Cameroon.
This year, we are offering 237 vehicles. Out of the 237 vehicles, we have 224 tricycles, and we have 12 pickups, and the biggest gift or the biggest prize is one big truck. What we are looking to do is to transform those winners into entrepreneurs. entrepreneurs into future bosses.
It is a colorful end-of-year campaign which MTN Cameroon is serving to their millions of subscribers, with the winning code being *237#.
Any bundle that you subscribe to is eligible for winning. So you have to go to *237# in order to see the best deals selection. We have selected the best offers in the continent, so you can go there, and for any bundle, you will receive an unbeatable bonus. It could be a gift like the free data or free minutes, but this is a guarantee bonus. In addition of that, you will be eligible for winning the vehicles, one of the vehicles.
The climax of celebrations will be the grand unveiling by the end of the campaign on television channels across the country.
We will announce the vehicles every day, every week, and every month. Tricycles, the pickups, and the super truck will be announced at the end of the campaign.
By being everywhere you go, MTN Cameroon, headed by the CEO Mitua Ngambi, is also dedicated to financial development and the development of communities, which passes through projects like the 237 MTN Boss campaign. Roselyne Forsa, CRTV News, Douala.
Avant la page magazine du 17-18, je vous donne lecture de ces télégrammes officiels du président de la République. D'abord, ce télégramme officiel adressé à Son Altesse Sérénissime Albert II, prince souverain de Monaco, au palais princier de Monaco. Le chef de l'État écrit « Monseigneur, j'ai un réel plaisir à vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration le 19 novembre de la fête nationale de la Principauté de Monaco. J'y associe mes voeux de bonheur pour vous-même, la famille princière et le peuple monégasque. Veuillez agréer, Monseigneur, les assurances renouvelées de ma très haute considération. » Signé Paul Biya. Le président de la République, qui écrit également à Son Excellence Denis Besirovic, président de la présidence de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, le chef de l'État écrit « Monsieur le Président, la célébration par la République de Bosnie-Herzégovine de sa fête nationale le 21 novembre m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes voeux de concorde et de progrès pour votre nation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. » Signé Paul Biya. Le président de la République écrit enfin à Son Excellence Najib Mikati, président intérimaire de la République libanaise, président du Conseil des ministres à Beyrouth. Paul Biya écrit « Monsieur le Président, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration le 22 novembre de la fête nationale de votre pays. J'y joins mes voeux de paix, de concorde et de progrès pour la nation libanaise. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. »
Écoutez le 17-18, toute l'actu en direct.
Thanks for staying with us on the 5 to 6 p.m. We value your decision to listen to the 5 to 6 p.m. as we get into the magazine segment. Stakeholders in the electoral process in Cameroon have been addressing issues pertaining to the promotion of citizen engagement in the electoral process and the provision of essential voter education to groups like youth, women, and people living with disabilities. This is thanks to the National Consultation Platform, which has been hailed by the Electoral Board Chair as having played a crucial role in instilling confidence in the electoral process. The moves being made towards ensuring that the political playground is leveled will be examined in focus of the day with Rabiatu Fuda Otu coming up in a moment.
La plateforme nationale de concertation permanente qui rassemble autour d'Elecam les différents acteurs impliqués dans le processus électoral traduit une volonté majeure, celle de transparence du processus qui, dites-vous, Rabiatu Fudaoutou, ne se manifeste pas qu'à travers les assises de ce jour. La concertation lancée ce mardi est la deuxième du genre.
Et il s'agit effectivement, Larissa, d'un processus qui n'est pas né aujourd'hui, il y a un an, précisément le 8 août 2023. Elections Cameroun procédait au lancement officiel de la plateforme nationale de concertation permanente, cadre inclusif, fédérateur de tous les acteurs du processus électoral au Cameroun. C'était l'épisode 1 de cette opération, inscrite au cœur même de la stratégie de l'ECAM, dans ce qui est sa mission centrale, organiser les différents scrutins. Phase préparatoire, déroulement, étape post-électorale, dans la transparence et la sincérité de tout le processus, bref, dans l'esprit de la démocratie instaurée et mise en marche par l'État du Cameroun. Il s'agit donc dès ce mardi 26 novembre 2024 de l'épisode 2 de cette plateforme nationale de concertation permanente, des échanges francs et ouverts autour d'un thème qui fait référence au dialogue électoral pacifique comme pilier de gouvernance. L'institution ELECAM est en effet consciente d'une exigence qui s'arrime à l'évolution démocratique. Il faut donner la possibilité à chaque acteur de jouer à fond sa partition en se constituant force de proposition.
Et des propositions, justement, sont effectivement attendues de ces différents acteurs. Il leur revient la charge de formuler des suggestions et recommandations dans le sens d'une gestion toujours plus responsable des scrutins, avec en vitrine la prise en compte des normes établies et des aspirations des citoyens, d'où la grande représentativité au sein de cette plateforme Rabiatou, qui se veut en tout point inclusive.
Ils sont issus, ces acteurs, d'horizons divers, des leaders politiques aux représentants d'administrations ou d'organisations non gouvernementales, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, appelés à défendre leurs idées et intérêts propres, appelés à être la voix des groupes sociaux qu'ils représentent, à favoriser à travers leur participation active toute l'équité, la crédibilité et l'intégrité des scrutins tels que souhaités par l'institution en charge de leur organisation au Cameroun. Une mission lourde dont la finalité est aussi le progrès démocratique du pays. Faut-il le rappeler, Larissa, la mise en place d'un tel espace de concertation et l'ECAM, autre acteur, tire son fondement des textes officiels de référence. Il prévoit ces textes dans le cadre de la gestion du processus électoral, l'organisation par le Conseil électoral de concertation avec l'administration, la justice, les partis politiques, les médias, la société civile. L'article 11, alinéa 2 du Code électoral, se veut précis sur la question.
Alors à bientôt, Foudaoto, dans le Focus du jour.
Écoutez le 17-18, toute l'actu en direct.
À 17h passées de 48 minutes, coup de projecteur sur notre grand reportage. Nous vous replongeons dans les couloirs de la 6e édition du rendez-vous d'affaires de référence entre la France et l'Afrique, récemment organisé à Paris, les 19 et 20 novembre dernier. Plusieurs chefs d'entreprise ont fait le déplacement du ministère de l'économie français pour la formation ou un partage d'expériences. Le cas du port autonome de Kribi, valorisé au cours de l'Ambition Africa 2024, c'est le nom de cette rencontre. Grand reportage, Clarisse Ndionga, envoyée spéciale de la CIRTV à Paris.
À l'évocation du climat des affaires entre la France et les pays africains, Abdelmalek Alaoui, homme d'affaires marocain, ne mâche pas ses mots.
Il faut qu'on passe de cette relation encore très empreinte de condescendance postcoloniale dans laquelle le verbe est aussi important. Donc dire nos amis africains doit devenir nos partenaires. Et donc le verbe, la sémantique est très importante pour ce partenariat d'égal à égal. De nouveaux partenaires arrivent, la Chine est là, d'autres partenaires sont prêts à travailler avec l'Afrique avec une dimension rénovée.
Céline Aboudia lui emboîte le pas.
On veut des partenariats win-win. Une manière beaucoup plus respectueuse, en fait, finalement, de penser le développement économique, de penser la relation d'affaires. Il y a énormément d'opportunités sur le continent. Et puis aussi, il faut miser sur des partenariats avec des entreprises locales.
La présidente fondatrice du groupe de relations publiques Global Mind Consulting convoque la responsabilité sociétale des entreprises qui ferait défaut à plusieurs investisseurs français en Afrique.
Ça ne doit plus se limiter à un contenu marketing. Pour faire bien, pour avoir une image qui est correcte, ça doit être un engagement réel qui s'adosse à de l'éthique, à de l'engagement, à de la responsabilité et qui s'adosse à une volonté réelle de transparence.
En organisant le forum Ambition Africa, l'entité Business France, chargée de la mise en relation et de l'accompagnement des entreprises françaises en Afrique, veut rassurer ses partenaires de son changement de paradigme. Marc Cagnard, directeur général Business France, Afrique subsaharienne.
C'est vrai qu'on voit monter la concurrence de nouveaux acteurs qui s'intéressent au marché africain, y compris d'ailleurs des concurrents européens eux-mêmes, hein, qui jusque-là étaient moins présents sur le marché, mais ça suppose pour nos entreprises de s'adapter si elles veulent effectivement continuer à travailler avec des partenaires africains. Et donc ça suppose aussi se différencier par des outils ou des approches, peut-être plus d'innovation, plus de qualité.
Le port autonome de Kribi apparaît tel un pôle d'excellence en Afrique centrale, notamment en matière de mobilisation d'IDE, les investissements directs étrangers. Habib Iya.
En 6 années, nous avons cumulé à peu près 200 milliards d'IDE pour permettre de construire la zone attenante. Et vous dites bien qu'il y a des capitaux français, il y a des capitaux asiatiques, il y a des capitaux de divers pays du monde. Comme tous les ports en Afrique, l'un des principaux défis concerne le post-acheminement et le pré-acheminement. Kribi aujourd'hui ouvre sur un marché d'à peu près 60 millions d'habitants, constitué du Cameroun, de l'Interland du Cameroun, du Tchad, de la RCA et du Nord-Congo.
Le Cameroun est aujourd'hui l'un des 3 pays de la côte ouest africaine à avoir 2 ports de premier plan, soit 400 km de littoral maritime. Le port autonome de Douala et celui de Kribi, qui portent la vision et les ambitions du pays en perpétuelle quête de partenaires pour doper son économie et améliorer les conditions de vie de ses populations. Paris, Clarisse Njanga, CRTV.
Time to get out of Cameroon to get news. Kenya has plunged in the latest rankings of how open it is to visitors from the other African countries despite introducing a visa-free policy earlier this year. It dropped 17 places to 46th out of 54 nations, according to the 2024 Africa Visa Openness Index. Last year, President William Ruto was highly praised after announcing that Kenya would drop visa requirements for all visitors from the continent. But in their place, most travelers now have to apply online for authorization before leaving their country, which some have criticized as a visa under another name.
Élection législative du 29 décembre prochain au Tchad. 3 candidats du parti du mouvement politique du salut, MPS, parti d'opposition, définitivement écarté par le Conseil constitutionnel. Et puis l'annonce choc de Donald Trump continue de faire des vagues aux États-Unis. Il s'agit de l'augmentation des droits de douane pour la Chine, le Canada et le Mexique. Jean-Philippe Bela, stagiaire, déroule toutes ces nouvelles.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier lundi 25 novembre 2024 la décision de l'agence électorale d'écarter une frange importante de l'opposition pour les législatives du 29 décembre prochain. Il s'agit notamment de Mahamat Zent Bada, secrétaire général du mouvement politique du salut, condamné par la justice tchadienne pour détournement de fonds publics. Le Conseil estime que le candidat de l'opposition a dissimulé sa condamnation en s'inscrivant de manière frauduleuse sur les listes électorale. Il en est de même pour Mahamoud Boubakari et Salomon Gaïgro, 2 autres cadres du MPS. Aux États-Unis, les premières mesures économiques de Donald Trump sont connues. Le président américain prévoit une augmentation des taxes douanières sur des produits en provenance de la Chine, du Canada et du Mexique. S'agissant de la Chine, le milliardaire républicain prévoit des droits de douane pouvant aller jusqu'à 60% pour certains produits et 200% sur les véhicules en provenance du Mexique. Il explique avoir souvent évoqué le problème de l'afflux de gros, notamment de fentanyl, un des principaux responsables de la crise des opiacés aux États-Unis avec les responsables chinois qui lui ont d'ailleurs promis de punir sévèrement jusqu'à la peine de mort les trafiquants. Mais ils ne sont jamais allés au bout des choses.
Time to talk sports on the 5 to 6 p.m. The senior women's handball team of Cameroon will open their campaign at the 26th African Women's Handball Cup tomorrow against Guinea. The handball lionesses, who are already in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo, will play 5 group matches in the championship. Harrison Ashu-Tiku has the details.
The Matthias Gymnasium in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo, will host the 12 countries involved in the championship. The senior women's handball team of Cameroon are drawn in Pool B alongside the host country, the Democratic Republic of Congo, Guinea, Tunisia, Uganda, and Angola. The handball Lionesses will open their campaign in the competition this Wednesday against Guinea, who have participated 5 times in the event and are yet to reach the semis. Their second group match will be on Thursday against the host country, who have 12 appearances in the competition, and their best performance was in 2014 when they secured a silver medal. On Saturday, Coach Mangala Search and his girls will play against Uganda, who are making a comeback in the competition after 40 years. Their last participation was in 1979. The real test for Cameroon will be in their day 4 outing against their toughest opponent, Angola, who has won the championship 15 times. The Handball Lionesses, who lost 2 finals in 2021 and 2022 to the Pearls of Angola, will be hoping for a revenge. In the meantime, their last group match will be against 3-time winners, Tunisia, who are also a very experienced side. The 26th Women's African Handball Championship that kicks off this Wednesday will run to the 7th of December 2024.
Un mot de cyclisme à présent. À 48 heures du lancement de la 2e édition de la course nationale VTT Chantal Biya, Bagofit se métamorphose pour accueillir les visiteurs et les cyclistes en lice. Ariel Oliviazoa nous en dit plus.
À Bagofit, c'est 150 coureurs qui vont compétir dans 4 catégories sur des distances de 12, 48 et 60 kilomètres. Les populations de la localité se sentent déjà impliquées dans cet événement qui va réunir plusieurs nationalités. Aimé Césaire Fouam, habitant de Bagofit.
On vous donne un coup de main pour que toute la cité qui va abriter la course VTT soit propre, nickel. Et c'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de toute la communauté Bagofit-Adouma.
En marge de la course, il est prévu une marche sportive, une foire exposition et une campagne de soins de santé. Docteur Akoum Poimé, directeur du centre médical d'arrondissement de Bagofit.
Nous aurons au minimum 4000 personnes. Il faut noter que l'ensemble de cette offre de soins sera totalement gratuite.
Le promoteur de la course nationale VTT Chantal Biya, le ministre Joseph Lay, préside ce mardi à Yaoundé la 3e et dernière réunion préparatoire. Une réunion qui précède l'arrivée de la 2e délégation centrafricaine conduite par le ministre centrafricain de la promotion de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique, Rodolphe Héritier Bonheur Donen. Toutes les délégations prendront la direction de Bagofit jeudi prochain.
Et loin de toute actualité sportive, je vous donne lecture de ce communiqué de presse du ministre des Finances avant de clôturer le 17-18. Le ministre des Finances porte à la connaissance des contribuables relevant du régime fiscal des organismes à but non lucratif qu'en application de l'acte uniforme de l'ORADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif, la Direction générale des impôts, en partenariat avec les ordres nationaux compétents en matière de comptabilité et de fiscalité, a mis en place de nouveaux modèles de déclaration statistique et fiscale spécifiques aux OBNL. Ces nouveaux formulaires sont dès à présent accessibles sur la plateforme en ligne de l'administration fiscale à l'adresse www.impots.cm. En vue de faciliter le respect des échéances fiscales, le ministre des Finances invite l'ensemble des OBNL à procéder à la soumission de leur déclaration fiscale pour l'exercice 2023, au plus tard le 31 décembre 2024 via la dite plateforme. De plus, le ministre informe le public que l'administration fiscale poursuit activement les sessions de formation dédiées à l'utilisation de ces nouveaux modèles de DSF. Il encourage vivement les OBNL à se rapprocher de leur centre des impôts de rattachement pour toute demande d'assistance ou pour obtenir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Le ministre des Finances réaffirme son engagement à soutenir les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et compte sur le civisme de tous.
And that's the end of the 5 to 6 p.m. presented by Maureen Wanzi-Wilai and Larissa Enganom under the supervision of the editor-in-chief, Florence Meke. Thanks for listening and do stay tuned to programs on the CRTV.